André Ruiz pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Chacun de nous connaît et répétait volontiers dans les dîners ce que nous oyons loi-t-elle. Si vous cassez le bout de bois en deux, il y a encore deux bouts à chaque bout. Je suis à droite de la main gauche et je suis gauche de la main droite. Ces phrases virtuoses sont tirées de l'œuvre de Raymond Devos. Raymond Devos, maître incontesté de l'humour absurde et virtuose du langage, a marqué des générations par son art inimitable du jeu de mots. Avec un style unique, il manipulait la langue française avec finesse, jouant sur les doubles sens, les paradoxes et les subtilités sémantiques pour créer des situations aussi cocasses que profondes. Raymond Devos, dont nous allons parler aujourd'hui, et dans deux autres prochaines émissions avec nos amis comédiens, Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous. Bonjour Philippe, bonjour André.
Et bonjour Philippe Merlan.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Françoise, bonjour André.
Philippe qui a aussi préparé l'émission. Et merci d'être avec nous pour nous dire quelques sketchs de Raymond Devos. Mais auparavant, quelques mots sur la vie et l'œuvre de notre artiste. Né français en Belgique le 9 novembre 1922, son père est industriel dans le textile, dans une vaste région industrielle qu'une frontière ne parvient pas à diviser. Sa famille vit dans un magnifique château à Moucron. Deux ans plus tard, celle-ci s'installe dans une autre belle demeure, à quelques kilomètres de là, à Tourcoing. Voici, pour commencer, le plaisir des sens avec Philippe.
Vous savez, le problème de la circulation, ça ne s'arrange pas. J'étais dans ma voiture, j'arrive sur une place, je prends le sens giratoire. Emporté par le mouvement, je fais un tour pour rien. Je me dis, ressaisissons-nous, je vais pour prendre la première à droite sans interdit. Je me dis, c'était à prévoir, je vais prendre la deuxième. Je vais pour prendre la deuxième sans interdit. Je me dis, il fallait s'y attendre, prenons la troisième. La troisième, sans interdit. Alors là, je me dis, là, ils exagèrent. Je vais prendre la quatrième, sans interdit. Ah, je me dis, tiens, je vais faire un tour pour vérifier. Quatre rues, quatre sans interdit. J'appelle l'agent. Monsieur l'agent, il n'y a que quatre rues et elles sont toutes les quatre en sans interdit. Je sais, me dit-il, c'est une erreur. Mais alors, pour sortir, ah, vous ne pouvez pas, hein? Alors, ben, qu'est-ce que je vais faire? Tourner avec les autres, hein? Ben, ils tournent depuis combien de temps? Ah ben, il y en a, ça fait plus d'un mois. Et ils ne disent rien. Ben, que voulez-vous qu'ils disent? Ils ont l'essence, ils sont nourris, ils sont contents. Mais attendez, mais il n'y en a pas qui cherchent à s'évader. Si, ben, ils sont tout de suite repris, hein? Mais par qui? Ben, par la police, monsieur, qui fait sa ronde, mais dans l'autre sens. Mais ça peut durer longtemps. Ben jusqu'à ce qu'on supprime l'essence. Mais si on supprime l'essence, il faudra remettre les bons. Oh, mon bon monsieur, il n'y a plus de bon sens. Ils sont uniques ou interdits. Allez, donnez-moi 900 francs. Mais pourquoi? C'est défendu de stationner. De quoi? 300 euros de plus. Mais pourquoi? De taxes de séjour? Oh ben tenez, les voilà, hein. Et maintenant filez, et tâchez de filer droit, hein. Sans ça, je vous aurai au tournant. Alors, j'ai tourné. À un moment, comme je roulais à côté d'un laitier, je lui ai dit, « Dis-moi, laitier, ton lait va tourner. »« Ah, ne t'en fais pas, me dit-il, je fais mon beurre. » Ah ben, je lui dis, ben celui-là, il a le moral, hein. Et ben, je lui dis, « Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette voiture noire là-bas qui ralentit tout ?» Ah ben ça, c'est le corbillard, hein. Il tourne depuis 15 jours. Et, ah oui, ah bon. Et la blanche, là, qui vient de nous doubler. Ah ça, c'est l'ambulance, hein. Priorité, hein. Mais il y a quelqu'un dedans. Il y avait quelqu'un dedans, oui. Et où est-il maintenant? Ben dans le corbillard, hein. Je me suis arrêté, j'ai appelé l'agent, je lui ai dit, « Monsieur l'agent, je m'excuse, j'ai un malaise. » Il me dit, « Si vous êtes malade, montez dans l'ambulance. »
Le petit Raymond va beaucoup au cirque. Son père joue du piano. Sa mère Agnès joue de la mandoline, aime l'art et les jeux de mots. Très tôt, c'est sur ce terrain qu'ils seront complices. À 5 ans, il éprouve un vertige fondateur lors d'une représentation de théâtre donnée à l'école par les cours moyens. Sur la scène du réfectoire, il voit une forêt, il y entre et s'y perd des yeux et de l'âme. Voici maintenant l'horoscope dit par Françoise.
Je ne sais pas si vous lisez l'horoscope. Moi, je le consulte tous les matins. Il y a 8 jours, je vois dans mon horoscope discussion et brouille dans votre ménage. Je vais voir ma femme. Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Bah alors, pourquoi discutes-tu? Depuis, on est brouillé. Ce matin, je lis dans mon horoscope risque d'accident. Alors, toute la journée, au volant de ma voiture, j'étais comme ça, à surveiller à droite, à gauche. Rien. Rien. Je me suis dit, je me suis peut-être trompée. De temps de vérifier dans le journal qui était sur la banquette de ma voiture, paf, ça y était. Le conducteur est descendu, il me dit, vous auriez pu m'éviter. Non, pas du tout, c'était prévu. Comment ça? L'accident est déjà dans le journal. Notre accident est déjà dans le journal. Bah, le vôtre, je sais pas, mais le mien, il y est. Mais le vôtre, c'est le mien. Oh, hé, hey, une seconde. Vous êtes né sous quel signe, vous? Balance. Balance. Je regarde Balance, je dis, ah ben non, vous n'avez pas d'accident. Vous êtes dans votre tort, mon vieux. Il y a un agent qui est arrivé et il me dit, vous n'avez pas vu mon signe? Prenez le journal, regardez. Je vais quand même pas regarder le signe de tout le monde.
Très vite, la mère de Raymond Devos l'encourage à cultiver un don précoce pour raconter des histoires. Et il est nourri de tout ce qui graille dans les manuels du collège. Mais seulement jusqu'à 13 ans. Un jour, on vient le chercher au milieu d'un cours et on lui dit de rentrer chez lui. Son père a fait faillite et tout perdu. Son père s'exile dans l'anonymat parisien, gagne sa vie chichement en reprenant son ancien métier de comptable. Sa famille s'entasse dans 3 pièces miteux. Raymond ne retournera pas à l'école. Il prend un travail de livreur chez un crémier des Halles, mais la comédie s'invite, évidemment. Un jour qu'il traverse la place de la Concorde en appuyant sur les pédales de son triporteur, il dérape sur le pavé, 10 juin, et ses 100 douzaines d'œufs s'étalent au sol. Quand un policier s'approche pour verbaliser, le gamin lui dit de faire attention à ne pas marcher sur l'immense omelette crue, et un petit moment plus tard, Raymond est en train de brosser un uniforme de la police nationale dans les lavabos d'un commissariat. Tant pis pour la crèmerie. Il fera 10 métiers, toujours lamentablement. Quand on lui confie des livres à vendre au porte-à-porte, il les lit puis explique aux clients combien ils sont ennuyeux. Il renverse des assiettes quand il se sert dans un restaurant, perd des échantillons quand il est représentant en tissu. Il fait un peu de trapèze et devient même de première force au bar parallèle. Il prend des cours de théâtre, se rêve artiste, mais la guerre arrive. Voici maintenant l'auteur critique ou un cas de dédoublement par Philippe.
Le dédoublement de la personnalité, ça existe. Hein. Ben, je vais vous citer un cas. Tenez, je connais un critique qui est en même temps auteur, qui le met en tant qu'auteur dans une situation critique. Alors il a écrit une pièce qu'il a fait jouer, et le soir de la générale, c'est lui qui était dans la salle pour faire la critique. Comme il est sévère mais juste, le lendemain dans la presse, il s'est éreinté. Il s'est littéralement traîné dans la boue. Quand l'auteur a lu sa critique, il s'est envoyé une lettre dans laquelle il disait qu'il n'avait rien compris à sa propre pièce. Mais depuis, il ne se parlait plus. Quand ils se rencontraient dans une glace, ils ne se saluaient plus. Et puis, ils n'arrêtaient pas de s'envoyer des lettres d'insultes. En tant que critique, disait-il à l'auteur, vous écrivez comme un manche. Et en tant qu'auteur, il répondait aux critiques, critiquer, c'est facile, mais pour écrire, c'est une autre paire de manches. Après s'être envoyé plusieurs lettres, il s'est envoyé une gifle. Comme ce n'était pas un lâche, il se l'est rendu, hein. Après s'être envoyé plusieurs gifles, quand il a eu compris que d'un côté comme de l'autre, c'était toujours lui qui prenait, il se dit « c'est trop bête ». Alors il s'est invité à déjeuner, tout seul, Enfin, tête à tête. À la fin du repas, il s'entendait avec lui-même comme deux larrons en foire. À partir de ce moment-là, il s'est appelé « nous ». Nous allons écrire une pièce de concert, nous la ferons jouer et nous la critiquerons de conserve. Je l'ai connu à cette époque-là. Un jour, on sonne à ma porte. Ma mode, qui était allée ouvrir, me dit « Il y a deux messieurs qui vous demandent ». Je dis « Deux messieurs ». Elle me dit « Il n'y en a qu'un, mais dit qu'ils sont deux ». Ben, je me suis dit « Alors c'est lui, faites-les entrer ». Effectivement, c'était eux. Je leur dis « Asseyez-vous ». Qu'est-ce que vous prenez ? Ils me disent « Deux whisky ». Comme j'allais à la cuisine préparer les whisky, j'entends des éclats de voix. « Qu'est-ce que c'est laid ici ? Mais c'est d'un mauvais goût, mon cher. » Je reviens, je lui dis « Vous me parliez ?» Il me dit « Non, nous discutions entre nous. » Je lui dis « Comment trouvez-vous mon appartement ?» Il me dit « Moi, très bien, mais il y en a qui ne peut pas s'empêcher de critiquer. » Il en vient au bout de sa visite. Et il me dit « Voilà, nous avons écrit une pièce à deux personnages et nous voudrions que vous la jouiez. » Je dis « Oui. » Et il me dit « Vous deux ?» Je dis « Moi et qui ?» Ben, il me dit « Vous et vous. Vous êtes comédien ?» Ben, oui. Alors il me dit « Alors vous vous dédoublez. » Là, j'ai compris qu'il n'était pas simple. Alors je lui dis « Oui, mais enfin, en ce moment, nous ne sommes pas libres. » Alors, sur là, il me répond « Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Mais je lui dis, je joue les deux orphelines. Alors, je regrette, me dit-il. Il se lève en se faisant passer devant et en se disant après vous. Devant la porte, ça n'en finissait plus. Alors j'ai ouvert la porte à double battant et il est sorti l'un derrière l'autre. Quand je repense à cela quelquefois, je me dis, t'aurais peut-être mieux fait d'accepter de jouer cette pièce. Ah, je me dis, non, elle ne pouvait pas être bonne. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Tu ne l'as pas lu. Mais je ne vais pas lire la pièce d'un fou. Mais qui te dit qu'il est fou ? Plutôt d'une fois qu'une. Non. Il parlait tout seul, il n'arrêtait pas de discuter avec lui-même. Et toi, en ce moment-là, que fais-tu d'autre ? Ah ben, tu as raison. Je ne suis qu'un sot doublé d'un bel imbécile. Allez, si on allait prendre l'air, ça nous ferait du bien. Ah, mesdames et messieurs, excusez-nous, nous allons prendre l'air. Et quand nous serons calmés, je reviendrai. Vous voyez, souvent, on se prend pour quelqu'un d'autre, alors qu'au fond, on est plusieurs.
La guerre. Génération sacrifiée, flouée par l'histoire. Raymond Devos est trop jeune pour être mobilisé en 1939. Et suffisamment âgé pour partir dans les usines allemandes avec la mise en place du STO en 1942. Fin des projets et des rêves. Dans son camp en Allemagne, il découvre la puissance du mime pour communiquer avec d'autres déportés du travail de nationalités diverses. Il améliore son ordinaire en organisant des spectacles pour ses compagnons d'infortune, mais l'épreuve du STO laissera des traces profondes. Après la libération, il reprend les cours d'art dramatique, notamment chez Tania Balachova, à l'école du Vieux Colombier. Il travaille le mime pendant 2 ans chez Étienne Decroux, et révolutionnaire de cette discipline et maître de Jean-Louis Barrault et Marcel Marceau. Un apprentissage et des rébuffades. En Savoie, il pousse la brouette des costumes et accessoires d'une troupe itinérante qui va jouer le juif d'Ekman Chatrian de village en village. Il joue Knock et le médecin malgré lui. Dans les tournées des sous-préfectures, il plonge dans le foisonnement des cabarets parisiens où le rire, la chanson, le théâtre sont réinventés par des jeunes gens qui osent et tentent tout pour un public qui ne désire qu'être surpris. Il est d'abord dans un trio, les trois cousins, puis dans un duo avec Robert Verberg, les Pinsons, qui chantent des chansons de western dans des versions délirantes. École féconde, des petites scènes où l'on apprend des copains, il aura bon goût dans ses amitiés avec d'autres débutants, Georges Brassens et Jacques Brel notamment. Parallèlement, il entre dans la troupe de Jacques Fabry en 1955. 2 ans et demi de tournée avec les Hussards, la famille Harlequin, La Vertu en danger. Une troupe novatrice dont sortiront Rosy Vart, Claude Pieplu ou Romain Bouteille. Voici maintenant « Qui tu es ?» avec Françoise.
Un jour, en pleine nuit, mon médecin me téléphone. « Je ne vous réveille pas. » Comme je dormais, je dis non. Il me dit « Je viens de recevoir du laboratoire le résultat de vos deux analyses. Nos deux analyses. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En ce qui me concerne, tout est normal. Par contre, pour vous, c'est alarmant. » Je dis « Quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il me dit « Vous avez un chromosome en plus. » Je lui dis « C'est-à-dire ?» Il me dit que vous avez une case en moins. Je lui dis ce qui signifie. Il me dit que vous êtes Arthur Neuil. Vous avez le virus du cœur. Je lui dis le virus du tueur. Il me dit, je vous rassure tout de suite, c'est pas dangereux pour vous, mais pour ceux qui vous entourent, ils doivent se sentir visés. Alors je lui dis, pourtant, je n'ai jamais tué personne. Mais il me dit, ne vous inquiétez pas, hein, ça va venir. Vous avez une arme ? Je lui dis, oui, un fusil à air comprimé. Il me dit, alors, pas plus de 2 airs comprimés par jour. Et il raccroche. Toute la nuit, j'ai cru entendre le chromosome en plus qui tournait en rond dans ma case en moins. Le lendemain, je me réveille avec une envie de tuer. Irrésistible. Allez, il fallait que je tue quelqu'un, tout de suite. Mais qui ? Qui tuer ? Qui tuer ? Attention ! Je ne posais pas la question « qui tu es ?» dans le sens « qui es-tu toi qui cherches à te tuer ?» ou « dis-moi qui tu es et je te dirai qui tu es ». Non, non, non. Qui j'étais, je le savais. J'étais un tueur. Et un tueur sensible. Enfin, sensible, pas dans le sens du mot sensible. Je n'avais personne à m'apporter. Ma femme était sortie. Alors je dis « tant pis ». Je vais tuer le premier venu. Je prends mon fusil sur l'épaule et je sors. Et sur qui je tombe ? Le hasard, tout de même. Sur le premier venu. Ah, il avait aussi un fusil sur l'épaule. Il avait un chromosome en plus, comme moi. Il me dit, salut toi, le premier venu. Je lui dis, ah non, le premier venu, pour moi, c'est vous. Il me dit, mais non, j'étais venu venir avant toi. Et de plus loin que toi. Il me dit, tu permets que je te tutoie ? Je te tutoie et toi, tu me dis tu. Je me dis, mais si je dis tu à ce tueur, il va me tuer. Je lui dis, et si on s'épaulait mutuellement ? D'autant que nous sommes tous les deux en état de légitime défense. Il me dit, d'accord. On se met en joue. Il me crie, stop ! Nous allions commettre tous deux une regrettable bavure. On ne peut considérer deux hommes qui ont le courage de s'entretuer comme des premiers venus. Il faut en chercher un autre. J'en suis tombé d'accord. Là-dessus, j'entends claquer deux coups de feu et je vois un type à courir avec un fusil sur l'épaule. Je lui crie « Alors, vous aussi, vous cherchez à tuer le premier venu ?» Il me dit « Non, troisième, j'en ai déjà raté deux. » Et tout à coup, je sens le canon d'une arme s'enfoncer dans mon dos. Je me retourne, c'était mon médecin qui me dit « Je viens vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. » Je dis « Comment à votre place ?» Il me dit « Oui, le laboratoire a fait une erreur. Il a interverti nos deux analyses. Le chromosome en plus, le virus du tueur, c'est moi qui l'ai. » Je lui dis « Docteur, n'allez pas supprimer froidement un de vos patients. » Il me dit « Si, la patience a des limites. » j'en ai assez de vous dire, ne vous laissez pas abattre. » Alors je lui dis, vous avez déjà tué quelqu'un, vous ? Il me dit, sans ordonnance, jamais. Mais je vais vous en faire une.
Raymond Devos disait, le comique est un serviteur. Mon travail, c'est de distraire les gens. Ce qui m'amuse, c'est de raconter les choses et de faire en sorte qu'on rit. Ça ne va pas au-delà, mais c'est déjà pas mal. Si on rit des choses, c'est qu'on a compris leur résonance. L'histoire de Raymond Devos, telle qu'on le connaîtra, commence vraiment par l'instant légendaire de la révélation de Biarritz. En 1955, la compagnie Fabry, en tournée, descend du train à la nuit tombée. Les comédiens ne voient pas l'océan. Au dîner à l'hôtel, Un membre de la troupe demande au garçon « Et par où peut-on aller voir la mer ?» Le serveur lui répond « On ne peut pas, monsieur, la mer est démontée. » Raymond demande alors « Mais quand la remonte-t-on » C'est une révélation, la table est rie, mais il comprend que c'est cela qu'il a cherché pendant des années. Oui, c'est cela, c'est de cela qu'il a envie, de cela qu'il a besoin. Jouer avec les mots, les aborder par tous les sens, retourner la conversation quotidienne comme on retourne un gant. Voici « La mer des montées » par Philippe.
J'avais 3 jours devant moi, je dis « Tiens, je vais aller voir la mer ». Donc je prends le train, j'arrive là-bas, je vois le portier de l'hôtel, je lui dis « Où est la mer ?»« La mer ?» Ah, la mer, elle est démontée. Hein. « Vous la remontez quand ?» Question de temps. « Moi, je suis ici pour 3 jours. »« Oh ben, en 3 jours, l'eau, le temps de couler sous le pont. »« Le pont ?»« Bon, ben, écoutez, merci. Je vais attendre demain. » Le lendemain, je lui demande « Où est le pont ?»« Le pont ?» Quel pont ? Ben, le pont, quoi. Ben, il n'y a pas de pont. Comment ça, il n'y a pas de pont ? Non, il y en avait un, mais on l'a démonté. Mais c'est la guerre. Vous la remontez quand ? Oh, ben, tous les 20 ans. Moi, je suis ici pour 3 jours. En 3 jours, vous avez des chances. Bon, ben, merci, je vais attendre demain. Après, le lendemain, je me dis tout de même, avant de partir, il faut que je me débrouille pour voir la mer. Ben, je demande au portier de l'hôtel, puis je vois la mer. Pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est la fête. Ah ! C'est la fête ? Oui, alors on fait le pont. Eh bien, si vous refaites le pont, je vais pouvoir voir la mer. Non, parce qu'il y a le feu d'artifice. Le feu d'artifice, je le verrai de la mer. Vous le verrez mieux de votre chambre, monsieur. Ma chambre ne donne pas sur la mer. Ben, et le feu d'artifice non plus. Hein. Mais je m'en fous de votre feu d'artifice. Je veux voir la mer. Pas possible, monsieur. Pas possible. Comment ? Non, parce qu'il n'y a pas des gradins. Les gradins ? Oui, ils ont mis des gradins sur la plage pour voir le feu d'artifice. Ils ont mis des gradins. Alors moi, je viens de Paris. Je prends le train. Je me donne du mal. Pleure pas, tu la reverras ta mère. Je veux la voir tout de suite. C'est pas possible. Ben alors je lui ai dit, les gradins, vous les démontez quand ? Mais quand la mer sera remontée. Mais vous la remontez quand, la mer ? Il me dit, quand vous serez parti.
Il a 33 ans, l'âge où d'autres ont déjà du succès, voire une œuvre. Il teste rapidement dans les cabarets cette écriture et le personnage qu'il apporte. Il aura un nom, Boulin-Boulin. Qu'il abandonnera très vite. Mais il a déjà un costume bleu ciel, un nœud papillon, une manière singulière d'être sur scène, non pour monologuer, mais pour faire entendre des conversations. Il parle seul, mais répond aux questions qu'il se pose lui-même. Voici maintenant « Où court-il ?» avec Françoise.
Excusez-moi, ouais, je suis un petit peu essoufflée là. Ah ben, je viens de traverser une ville hein, où tout le monde courait. Bon, je peux pas vous dire laquelle, je l'ai traversée en courant. Alors, lorsque je suis entrée, je marchais normalement, ouais. Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, bah, je me suis mise à courir comme tout le monde, sans raison. À un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur, et je lui dis, mais dites-moi, là, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous ? Il me dit, ben, parce qu'ils le sont. Ben, il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici. Vous n'êtes pas au courant ? Ben, je dis, si, mais des bruits ont couru. Mais il me dit, court toujours. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous ? Et il me dit, tout. Il y en a qui courent au plus pressé, d'autres là, qui courent après les honneurs, celui court pour la gloire, celui-là court à sa perte. Ben, je lui dis, mais pourquoi court-il si vite ? Ben, il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps c'est de l'argent, puis il court vite, puis ils en gagnent. Mais je lui dis, mais où court-il ? Il me dit, à la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, et ils repartent toujours courant, en gagner d'autres. Ben, je lui dis, mais et le reste du temps ? Ben, il dit, ils courent faire leurs courses, au marché. Ben, je lui dis, mais pourquoi font-ils leurs courses en courant ? Et il me dit, mais je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Mais je dis, mais ils pourraient aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Mais oh, alors, on voit bien que vous ne les connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Je dis, pourquoi? Bah, il n'est pas... parce qu'il la rate. Bah, je dis, bon, pourtant, j'en vois un qui marche. Oui, 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 c'est un contestataire. Et il en avait assez de toujours courir comme un fou, alors il a organisé une marche de protestation. Bah, je dis, mais il n'a pas l'air d'être suivi. Mais il me dit, si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Alors je dis, et vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Bah, il me dit, moi, j'expédie les affaires courantes, parce que même ici, les affaires ne marchent pas. Bah, je lui dis, mais et où courez-vous là? Il me dit, mais je cours à la banque. Bah, je lui dis, mais pour y déposer votre argent. Il me dit, mais non, pour le retirer. Oh, moi, je ne suis pas fou. Hein. Je lui dis, mais si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville hein, où tout le monde l'est? Il me dit, bah, parce que j'y gagne un argent fou. C'est moi le banquier.
Raymond Devos apparaît d'abord comme un représentant d'une génération bénie. Celle de Robert Lamoureux, Jean Richard, Fernand Reynaud, Darry Cole, et triomphe longuement aux Trois Baudets, le sommet de la hiérarchie des cabarets parisiens dirigé par Jacques Canetti, également directeur artistique des disques Philippe, qui sortent son premier EP en 1956 avec La Mer des Montées, Le Pied, quand Jean-Rue Jean pleure. La radio et le propage et le rend immédiatement populaire et on commence à répéter ces dialogues dans les cours de récréation ou au bistrot. Voici, pour terminer cette émission, un dernier sketch très court, Les Neuf Veaux, avec Philippe.
Savez-vous ce qui s'est passé lors de la dernière conférence des Neuf là, sur l'Europe agricole? Pendant que les neuf ministres de l'agriculture débattaient du prix du porc, il y a un paysan mécontent qui a fait entrer neuf veaux dans la salle. Une confusion. On ne savait plus qui était qui. À la fin de la conférence, le paysan, au lieu de remporter ses neuf veaux dans la bascule qui a suivi, n'en a rapporté que huit. Il a amené un ministre avec. On ne dit pas lequel. Hein. Ce n'est qu'en arrivant sur le marché qu'il s'en est aperçu. Au moment de vendre les veaux, il y en avait un qui était invendable. C'était le... Eh oui. Parce que ministre, ça ne se vend pas. Ça s'achète parfois, hein. Mais ça ne se vend pas. Une fois, je l'avoue à ma grande honte, je me suis vendu pour pas cher. Et quand j'ai voulu me racheter, oh, je me suis payé un prix fou.
Raymond Devos était l'alchimiste du verbe, le magicien des mots. Tout à la fois comédien, jongleur, rêveur, funambule, clown, poète... Maître en calembour, amuseur comme il se présentait lui-même. Se jouant des coqs à l'âne et des paradoxes, il tenait les spectateurs en haleine au fil des monologues imaginaires pour les ramener dans le réel au terme d'une lutte où on le voyait se battre seul avec lui-même, amusé, effaré, dédoublé. Merci Françoise, merci Philippe. À très bientôt pour d'autres lectures de Raymond Devos. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts. Elle est bien sûr de Raymond Devos. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de la radio Altitude FM, altitudefm.com. Et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.